Bonjour, bienvenue sur Radio Campus. Nous sommes la classe de 4e B du collège André Duchesne situé à Lille-Bouchard.
Nous allons vous présenter avec mes camarades de classe notre projet sur le roman Céleste ma planète, un livre écrit par Timothée de Fombelle et édité par Folio Junior.
Ce travail a été animé par notre professeur de français, Madame Adjaï, notre documentaliste, Madame Boutegour et Sébastien Jacquelin de Radio Campus.
Bonne écoute à tous.
La première fois qu'elle m'a embrassé, nous étions suspendus par des câbles à 20 mètres du sol, avec 15 hommes armés à nos trousses. C'est peut-être pour cela que, pendant longtemps, je n'ai pu l'approcher sans avoir le vertige. Aujourd'hui, j'écris son nom en haut de ce petit cahier trempé qui me reste. Il fait froid, le feu n'y change rien. Je ne sais pas pourquoi l'encre de mon stylo ne gèle pas. Cette histoire, je n'aurai pas assez de pages pour en faire un roman, juste assez pour laisser une trace, la trace bleue de ce qui changea ma vie et aurait pu changer le monde céleste. J'avais décidé de ne plus être amoureux. Je l'avais décidé très tôt, vers 6 ou 7 ans. À l'âge où certains ne jurent ne plus aller à la piscine, de ne plus jamais porter de maillot de bain, parce qu'un maître nageur leur a crié devant tout le monde. Tape pas des pieds, on dirait un beignet dans la friture. Il y a ceux qui décident de ne plus montrer un centimètre carré de leur peau au bord d'une piscine. Moi, j'avais mis mon cœur sous une cloche lourde comme une plaque d'égout. Avant de 0 à 6 ans et demi, je tombais amoureux de tous ceux qui passaient devant moi avec des couettes et des chaussures à boucles. Ça finissait toujours mal. Le syndrome de grille-pain, je sentais mon cœur commençait à chauffer agréablement de deux côtés, et puis il était en l'air très tôt, très haut, et atterrissait sur le carrelage. Alors j'ai décidé d'arrêter. C'était un matin, à la boulangerie du 60e étage, j'attendais pour un croissant. La boulangère a dit en parlant légèrement au-dessus de mon épaule, « Vous êtes ensemble ?» Je me suis retourné. Il avait Charlotte, une fille plus grande que moi. Je l'ai fixé des yeux en pâlissant. J'aimais bien cette fille avec son appareil dentaire. Il suffisait que je la regarde pour avoir des doigts de pied qui se superposaient dans mes chaussures. La bouche sèche comme le dessert du Kalahari. « Vous êtes ensemble ?» a redemandé la boulangère. Elle voulait juste savoir si j'allais payer en même temps mon croissant et les bonbons de Charlotte. Vous êtes ensemble ? La question avait pour moi un autre sens qui me devenait la chair de poule. J'essayais de dire non, mais ma voix s'étranglait. On entendait au mieux un couinement de cochon d'Inde. Le grille-pain a commencé à chauffer dans ma poitrine. Charlotte a souri en marmottant toutes les bagues de ses dents. « Dans tes rêves », m'a-t-elle dit. Elle a mis son collier de bonbons autour de son cou et a jeté une pièce sur le comptoir, c'est là que j'ai décidé d'arrêter, juré. Je ne serai plus amoureux.
Le lendemain, je me suis mis à dessiner des cartes. Je dessinais des cartes du monde sur les murs, et puis je jouais du piano. C'est tout. Pendant les 8 dernières années qui ont suivi, je n'ai fait que ça, en dehors du collège de matin et de quelques discussions avec Brice. Brice, j'aimerais tellement avoir plus de place pour parler de Brice. Il mériterait 3 pages bien remplies avec des souvenirs même dans les marges. Mais le froid est rude, mon cahier est trop maigre, il faut avancer. Brice habitait dans les tours de briques. Son père était laveur de carreaux sur les façades de verre, dans mon quartier. Moi, je vivais dans la tour Immense City, à 2 blocs de l'école. On prend 3 passerelles à la hauteur du 100e étage, on remonte une 40aine de niveaux et on arrive chez moi. C'est grand chez moi, trop grand. Je me perdais quand j'étais petit. On aurait pu garer l'express du Nord dans le couloir. Il y avait 7 chambres d'amis et pas d'amis. Brice venait à la maison dans la tour Immense City, après l'école. Il attendait avec moi son père qui travaillait tard le soir. Brice, toujours la même scène, vers minuit. Brice, on voyait son père accroché à sa nacelle qui appelait et toquait à la fenêtre. On ouvrait. Ronflement de la ville entrait dans la pièce. Ça sentait le produit pour vitre, une odeur de pâte à ballon. Brice montait dans la nacelle avec le laveur de carreaux. À demain. Ils descendaient ensemble le long de la paroi de verre. Ils rentraient chez eux dans la nuit. J'aimais beaucoup le père de Brice, son métier d'acrobate accroché au tour. J'aimais beaucoup Brice aussi. Je sais maintenant que je leur dois tout. Brice, lui, aimait bien ma mère. Il me le disait pour me réconforter. C'est plus facile d'aimer les gens quand on ne les a jamais vus. Car ma mère n'était pas là. Jamais. Elle travaillait chez Industrie. Vu sa coiffure, elle devait être dans les chefs. Elle travaillait énormément. Elle voyageait. Moi, je la voyais une fois par mois dans la salle d'attente de son bureau. Elle me remplissait le frigo en ligne, tous les lundis. Elle voulait que je ne manque de rien. Et le livreur sonnait à 22h. Ça faisait des quantités astronomiques. 8 caisses tous les lundis. J'avais le temps de manger 3 œufs, des pâtes et des brocolis dans la semaine. Pas plus. Puis ça recommençait. 8 caisses. Le frigo en ligne, c'était mon cauchemar. Je n'arrivais plus à suivre. Une fois par semaine, le téléphone sonnait. Tu vois bien, mon chéri, tu as ce qu'il te faut. Ce n'était pas ma mère, c'était sa secrétaire, Gruenda. Ma mère n'avait pas le temps.
Heureusement, j'avais Brice. Il travaillait le frigo pendant que je dessinais mes cartes. Parfois, après 16 fromages blancs et 1 kilo de pistaches, il avait l'impression de prendre le dessus. Mais il restait 24 tubes de chamallow à boire, qui le narguaient avec leurs grands yeux roses. Brice jetait un mètre cube d'emballage vide tous les soirs avant de partir. Je me souviens du bruit du plastique écrasé dans le mange-ordure. Je me souviens aussi de l'abonnement à Jeux Console, 5 jeux payés par ma mère, qui arrivait le mercredi sur l'ordinateur. Brice me rendait service, il jouait 6 ou 7 heures en mangeant des chips, pendant que je faisais mon piano dans ma chambre. Rien que le nom me faisait de la peine. Jeux Console. Je n'ai jamais appris le piano, je joue ce que j'ai dans la tête et dans les doigts. Des airs tristes, si j'avais vraiment écouté ce que je jouais, mes doigts, j'aurais pu me douter que je n'étais pas dans la vie. Mais je ne me suis jamais ennuyé. Jamais. Quand j'y pense maintenant, c'est le seul cadeau que m'a fait ma mère en me laissant m'élever moi-même. Être incapable de m'ennuyer. J'avais démonté la carapace du piano pour qu'on voie la mécanique, les cordes et les marteaux. Je m'endormais parfois sur le clavier qui souriait de toutes ses dents. J'ai déjà noirci plusieurs pages et je n'ai même pas commencé à raconter ce qui compte. Je dois aller plus vite, il fait froid, le vent se lève dehors.
J'avais décidé de ne plus être amoureux. Pourtant, le jour de mes 14 ans, elle est apparue. On ne savait pas trop d'où elle venait. Elle vivait avec ses parents au sommet du 330. Le 330, c'est la tour parking du quartier de Verre. On y range les voitures verticalement comme des livres dans une bibliothèque. Il y a des grues qui font ça. Aujourd'hui, quand j'y repense, je trouve cette idée complètement débile. 330 étages de voitures, autant accrocher des assiettes à des cintres. Mais je me souviens bien qu'à l'époque, ça me paraissait normal et même assez malin. C'est peut-être ce qui m'impressionne le plus, que j'ai trouvé ce monde normal et même assez malin. Céleste, elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté 115 étages en silence. Le plus extraordinaire, c'est que personne n'ait interrompu cet envol hors du temps. Tous les deux, dans l'ascenseur. Elle avait le parfum de la terre chaude. Céleste, j'ai cru qu'on allait monter indéfiniment, entrer dans les nuages, frôler la lune par la face sombre. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle se soit arrêtée au 115e comme moi. Et qu'elle soit entrée dans l'école comme moi. Je l'ai perdue de vue dans les couloirs. Mais juste avant la récréation, le directeur est entré dans la classe. Elle s'appelle Céleste, vous pouvez l'accueillir. Et c'était vrai, elle se tenait derrière lui. Brice était absent. La veille, chez moi, il avait mangé 2 caisses de pop-corn. Sa place était libre, il était malade. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Quand j'étais tout petit, avec mon père, je suis allée au cirque dans le sous-sol d'Insanity, le centre commercial. Le dompteur a fait s'asseoir une panthère noire sur la chaise tout près de moi. Je garde un peu la même impression de cet instant où Céleste s'est posée sur le petit bureau d'à côté. Elle s'appelle Céleste, vous pouvez l'accueillir. J'avais compris, vous pouvez l'accueillir. Je n'arrivais pas à comprendre comment le directeur avait pu prononcer une telle phrase. Je la cherchais du regard sur la terrasse de l'école. Elle était restée dans la classe pour remplir une fiche. Moi, penchée au parapet de la terrasse de verre, je me répétais, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. J'avais peur de tomber amoureux. À l'heure du déjeuner, elle est partie. Elle n'a jamais remis les pieds au collège.
« Dans le précédent chapitre de Céleste ma planète de Timothée de Fombelle, on apprend qu'une jeune fille qui s'appelle Céleste arrive dans la même classe que le narrateur, qui tombe rapidement amoureux d'elle.
J'ai laissé filer quelques semaines. Il y a longtemps, je faisais pousser des lentilles sur du coton. Le pire, c'est les premiers jours. Il ne se passe rien. On perd son temps à regarder les lentilles. Même le coton ne sèche pas assez vite. On aurait envie de l'arroser. N'arrose pas trop, tu vas le noyer. Parfois, dans la vie, tout dure trop longtemps. Les premiers jours, sans Céleste, j'ai ressenti cette impatience. J'avais vécu 15 ans sans connaître son existence. J'avais à peine passé une demi-matinée avec elle. Mais une minute sans elle était maintenant pire qu'une journée coincée devant un semier de lentilles. Brice avait rejoint sa place le lendemain. Il me trouvait bizarre. Il me faisait passer des petits mots. « Je te trouve bizarre ». Il avait raison, j'étais bizarre. En fait, j'avais sauté du grille-pain comme avant, mais cette fois, je refusais de m'écraser sur le carrelage. Cette fois, j'avais décidé de rester en l'air. Imaginons une tartine qui, au moment de toucher le sol, se redresse d'un coup, se met à battre des ailes, remonte, plane, frôle la toile cirée et file vers la fenêtre. Imaginons une tartine qui se rebelle. L'après-midi, je dessinais mes cartes. Depuis un ou deux mois, je m'étais attaqué à l'Amérique du Sud. J'avais pris une dizaine d'atlas et je ressemblais toutes les informations en une seule carte peinte sur le mur blanc de ma chambre. L'année précédente, j'avais fini l'Asie et les trois quarts du Pacifique. À côté de la porte de la salle de bain, l'océan Indien débordait un peu sur le parquet. L'Amérique du Sud. J'essayais de rester concentré dans ce coin-là. Il suffit d'une seconde d'inattention pour faire laver la pointe du Chili sur le Pérou ou oublier une altitude, une ville d'un million d'habitants. Mais Céleste tournoyait ma tête. Je m'arrêtais parfois un quart d'heure, totalement immobile, revivant l'apparition de l'ascenseur. Je n'étais pas capable de sortir de cette torpeur. Envoûté, paralysé, le pinceau en vol stationnaire au-dessus de la terre de feu. Tu m'entends, hein ? C'était Brice. Je dis que j'ai fini le congélateur. Je m'en fous de ton congélateur, gros tas. Voilà ce que j'ai répondu à Brice. Il était là, devant moi, tout fier, de la poussière de sucre sur son nez, le visage luisant. Finir le congélateur un vendredi soir, c'était un record. Il s'était dépassé, et moi, pour la première fois, plutôt que le remercier, je lui ai répondu en l'insultant. J'avais vu ce troubler son regard de Brice. Il m'a tourné le dos et a claqué la porte. J'ai posé mon pinceau et puis j'ai appuyé ma tête sur le mur. Je devais avoir du rouge de Cuba dans les cheveux. Je suis sorti de ma chambre. J'ai couru dans le couloir en appelant Brice. Je voulais lui demander pardon. Brice, quand je suis arrivé dans le salon, j'ai vu la nacelle du laveur de carreaux devant la fenêtre. Brice était avec son père. « Écoute-moi, Brice. » La nacelle s'est mise à descendre et il a disparu.
Le lendemain, je suis partie à la recherche de Céleste. Le 330 était à l'autre bout du quartier de Vert. Il faut traverser une dizaine de tours. La circulation en plein air est réservée aux voitures. Ça donne des voies rapides, des tunnels et des bretelles d'autoroute qui se mélangent comme un plat de spaghetti. J'ai donc emprunté les passages couverts et les galeries commerciales. C'était un samedi. Il devait y avoir un monde fou. Je me souviens de presque rien. Je marchais dans la foule vers le 330, les yeux baissés. Même le sol de ces galeries est couvert d'écrans qui diffusent la publicité. Ma vue était troublée. J'essayais de me rappeler le visage de Céleste. Je ne savais pas son nom de famille. Je n'avais jamais entendu résonner sa voix. J'ai pris un dernier instant.
J'ai pris un dernier ascenseur dans la tour Unten City. Il descendait assez lentement pour laisser aux gens le temps de faire les désachats. C'est un ascenseur de verre qui contient une épicerie au bar, un bar et un marchand de chaussures. Unten City est le plus gros centre commercial de la ville. Quand on est dans l'ascenseur de verre, on voit de l'autre côté le 330 au milieu de son nuage de fumée. J'ai levé les yeux vers le sommet de la tour parking. Céleste était peut-être là-haut, dans cette vapeur grise. Puis l'ascenseur est descendu en sous-sol. Une vingtaine d'étages en dessous de zéro. Beaucoup de gens sont sortis avec moi, tout en bas. Ils allaient récupérer leur voiture. Je suivais le flot des piétons qui sortent. Ah, j'y arrive pas.
Il était maintenant tout près de moi, il me regardait et paraissait moins inquiet. Je ne devais pas avoir l'air dangereux, ni très haut, ni très costaud, tout se tend dans ma manche. Il m'a redit avec cet accent étrange, « Il n'y a pas de CST, elle n'existe pas. » Le ton était définitif, normalement, j'aurais dû abandonner. D'abord, je n'avais pas le droit d'être là. Ensuite, il avait deux têtes et un bonnet de plus que moi. Je ne faisais pas le poids. Normalement, j'aurais tourné les talons et je serais reparti vers mon ascenseur, vers ma petite vie, mon piano, mes cartes. Normalement. Mais plus rien n'était normal. Un petit grain de folie était en train de germer là, sur cette terrasse noire. Une herbe folle qui allait éclore et se dérouler, grandir et écarter ses bras à l'intérieur de moi. J'ai mis CST. Je n'ai même pas pris mon élan pour prononcer la phrase la plus folle que je pouvais prononcer à ce moment-là. Vous lui direz que c'est une voleuse. Ces mots ne correspondaient à rien. Ils ne signifiaient rien, mais grâce à eux, j'ai senti venir le moment que je redoutais et que je désirais le plus. Une main énorme m'a attrapé par le col et m'a soulevé. L'homme m'a fait monter jusqu'à la hauteur de son visage. Tu as dit quoi ? Céleste est une voleuse. Ses paupières se sont tendues, sa main a serré plus fort mon cou. Tu as dit quoi, petit ? J'ai dit que Céleste était une voleuse. Mais ça ne fait rien puisqu'elle n'existe pas. Je n'ai pas la place de développer ici le fait qu'habituellement, je n'avais pas trop l'âme d'un héros. Disons juste que je n'ai jamais été du genre à provoquer les plus grands que moi, ni même les tout petits. Je n'osais toucher à rien d'autre qu'aux 88 notes de mon piano. J'avais renoncé dès ma naissance à transformer le monde. Ce monde sur les murs de ma chambre, je le peignais comme il était, sans rien changer. Il y avait donc une certaine nouveauté dans ces mots jetés à la figure d'un géant au 330e étage d'une tour interdite. Céleste ne vole rien. J'ai souri. Il avait dit cette phrase en serrant les dents. Prêt à m'étrangler, mais j'étais envahie de joie. Céleste existait bien. Il la connaissait. Je veux la voir. L'homme a dû sentir l'émotion qui passait dans ma voix. Il m'a reposé. J'ai desserré mon col pour tenter de respirer. Il m'a regardé assez longuement. Il s'est éloigné et je l'ai suivi. Je ne sentais plus la poussière noire dont l'air était chargé. Je suivais cet homme entre les tourbines. Il marchait vers le rebord de la terrasse. Il savait que j'étais derrière lui. Il a ouvert une trappe. De la lumière est apparue. Il a dit quelques mots dans une langue inconnue. J'ai descendu après lui les degrés d'une échelle scellée dans le béton. Des yeux brillants dans la pénombre. Une femme était là. J'ai répété. Je cherche Céleste. La femme m'a conduit dans une seconde salle minuscule, encore moins éclairée. Allongée sur le sol, grelottante, le visage rongé de petites taches, les bras et les jambes enveloppés dans des bandelettes, Céleste me regardait.
Dans le chapitre précédent de Céleste ma planète de Timo Fontbel, le narrateur s'est fâché avec son ami Brice. Le lendemain de cette dispute, le narrateur part retrouver Céleste. Il fait la connaissance de son père et retrouve la jeune fille par terre en piteux état.
Je te reconnais, je ne pouvais pas prononcer un mot. Je te reconnais, répéta-t-elle. Tu es le garçon de l'école. Elle avait un sourire sur les lèvres pâles. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Elle articula. Je crois que je suis malade. Dans son état, elle arrivait à être belle. Je crois aussi, Céleste, je crois aussi que tu es malade. J'avais les yeux qui bouillonnaient dans l'ombre. Pourquoi es-tu venue me voir ici? Parce que tu me manquais. Elle aurait pu répondre, dans tes rêves où on ne s'est vu qu'une fois. Ou encore, je ne sais même pas ton prénom. Mais elle a dit, je suis contente. Sa mère était partie dans l'autre pièce et on entendait des murmures à côté. Je sentais en moi un bonheur douloureux. Je la regardais coucher sur le béton froid. Une ampoule pendait au-dessus d'elle. La voix du géant résonnait parfois à côté. « C'est mon père, » dit-elle. Elle avait peur que nous jetons dehors si on découvre ma maladie. Elle s'occupe de la maintenance des ventilateurs de la terrasse. C'est un bon travail. Il a un salaire. Il m'avait inscrit à l'école la vieille du jour où la maladie a commencé. Il était fier. Je fixais une tache sur mon front, une tache brune qui me semblait familière. J'ai demandé qu'il te soigne. Elle a fait un geste vers ses parents dans la pièce voisine. Je n'arrivais pas à me distraire de cette tache sur son front. « Tu as mal ?» Son silence était sans réponse. Son corps se tendait parfois dans l'ombre. Je me suis penché vers son front. « Attention, » soupira-t-elle, « c'est peut-être contagieux. » On est resté un moment sans rien dire, puis j'ai demandé. « Tu m'as vraiment reconnu tout à l'heure ?»« Oui, » répondit-elle. « Tu es plus reconnaissable que moi en ce moment. » Je crois qu'elle a ri un peu, j'ai pris le temps de réfléchir. « Céleste, tu ne dois pas rester ici. J'ai peut-être une idée. Je reviendrai demain. » « Est-ce que je peux revenir demain, Céleste ? Est-ce que je pourrais venir demain ?» Elle a chuchoté. Je n'ai pas la force de dire non. J'ai touché le bout de ses doigts et je suis rentrée chez moi.
« Tu imagines bien que j'aimerais te passer ta mère, mon chéri. Mais elle est en réunion. » « C'est Grenda, la secrétaire. Rien qu'au ton de sa voix, je savais qu'elle se faisait les ongles en me parlant. Pour la première fois, je cherchais à joindre ma mère. Elle est débordée, ta pauvre mère, mon chéri. » Elle a le conseil d'administration sur le dos, depuis hier matin. Tu peux pas comprendre. Tu appelles pendant la clôture des comptes. Ça tombe mal. C'est vrai que, pour moi, qui téléphonais à ma mère à peu près tous les 14 ans, ça tombait mal. Dites-lui de me rappeler. Je lui dirai, mon chéri, mais ne compte pas sur elle avant la fin de la semaine ou le début de la suivante. Elle ne rappelle même pas le directeur général qui est pendu à son téléphone. « Dis-moi donc, si tu as besoin de quelque chose. Le frigo sera rempli demain matin. J'ai besoin de parler à ma mère. Regarde un bon film et mange une pizza. Moi le doux, moi le tranquille, moi le pacifique. J'avais brusquement une envie de me glisser dans le téléphone pour lui faire manger sa pizza par l'oreille à cette secrétaire. J'ai pourtant pris le ton le plus calme de la terre pour lui dire « Très bien, Grenda. C'était juste un petit souci de santé. » Et j'ai raccroché. Je savais que le mot « santé » était un mot magique. Je n'étais jamais malade, mais ma mère aurait pu monter 3 pharmacies avec le contenu de l'armoire de la salle de bain. Sa seule manière d'exprimer son amour, c'était de s'inquiéter pour la santé des gens et de leur administrer des gélules et des suppositoires à la vitesse d'un pistolet mitrailleur. Un petit souci de santé, je pouvais compter sur Grenda pour transmettre ce genre de message. Je me suis assis et j'ai compté jusqu'à 20. Ça n'a pas manqué. Le téléphone a sonné. « Maman ? Mon Dieu, tu es en vie, mon chéri. Le médecin de la société est en route. Tu m'as fait tellement peur. Avale des comprimés rouges avec de l'eau et les bleus à dissoudre. Allonge-toi. Maman, prends ta température en attendant que le docteur. Mets une bouillotte sur ta tête et de la glace sous tes pieds. Il y a du sirop dans... Maman, j'ai pas le temps, malheureusement. Maman, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui vais mal. » Elle a enfin cessé de parler. C'était si rare que je n'étais plus certaine qu'elle se trouve encore au bout du fil. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. Les deux choses que je m'étais interdite à jamais. Je lui ai parlé de ma vie et je lui ai demandé de l'aide.
La société de ma mère, qui s'appelle donc Industrie, elle a le meilleur système de santé de la ville. Il y a 10 étages d'hôpital en haut de la tour Industrie. Les plus grands médecins y travaillent. Quand on a 3000 usines sur la planète et la moitié du marché des carburants, on peut bien s'offrir un hôpital pour soigner ses petits maux. On veut bien faire tousser les autres, mais il ne faudrait quand même pas s'enrhumer soi-même. Quand j'ai parlé de la terrasse 330, j'ai cru que ma mère allait s'évanouir. Elle hurlait. Tu n'es pas monté là-haut, j'espère. Je le ferai demain si on ne s'occupe pas de Céleste. Je t'interdis d'aller dans cet endroit. Tu entends, je te l'interdis. J'ai éloigné un peu le combiné de mon oreille pour ne pas recevoir de postillon. Doucement, j'ai répondu. Fais quelque chose, maman. Elle s'est remise à parler à quelqu'un dans un autre téléphone. En entendant d'étouffer le micro avec la main, elle avait dû se tromper de côté et j'entendais tout ce qu'elle disait. Oui, monsieur le directeur, c'est encore mon fils. J'arrive dans un instant. Vous savez ce que c'est les enfants. Je consacre beaucoup d'énergie à ma famille. C'est très prenant. Mais c'est une telle joie. Et puis mon fils a une grande santé fragile. Je vous rejoins tout de suite, monsieur le directeur. Elle m'a repris en ligne.
Bon, si c'est le seul moyen de t'empêcher de faire des idioties, je vais m'occuper de cette clocharde. Quand le doc arrive, dis-lui de m'appeler. Elle raccrochait. J'étais heureux. À partir de cet instant, tout a été très vite. Comme dans les films. Quand Industrie décide quelque chose, ça va vraiment très vite. Le médecin a sonné à la porte. Il a immédiatement rappelé ma mère en salle de réunion. Il était minuit. Elle lui a donné des ordres. Il a pianoté sur un petit écran qu'il avait dans la poche. Il m'a emmené sur le palier. On a pris l'ascenseur. Il avait un code pour accéder au toit de la tour où j'habite. J'ai entendu l'hélicoptère blanc approcher. Il s'est posé. On est monté en courant comme au cinéma, les cheveux ébouriffés par le vent. L'hélico a décollé en se couchant légèrement pour faire plus aventureux. Il y avait à bord 3 autres médecins en blouse blanche, dont 2 femmes très belles et souriantes. Dans l'hélicoptère, on parlait fort. On mettait le pouce en l'air pour dire « tout va bien ». Le pilote paraissait sorti d'une publicité pour les monstres. Les immeubles défilaient autour de nous. L'hélicoptère avait un projecteur qui balayait les façades et le 330 est apparu. On en a fait 2 fois le tour. Chacun a mis un masque pour respirer. Le mien était trop grand. Je portais une sorte de dossard fluorescent. L'hélicoptère s'est posé sur la terrasse. « Tu nous emmènes ?» m'a crié le docteur. « D'accord, Doc. » C'est lui qui m'avait demandé de l'appeler Doc comme à la télé. Il m'a aidé à descendre 2 autres suivis avec un brancard. J'ai couru vers le refuge de Céleste. Quand j'ai soulevé la trappe, j'ai retiré mon masque pour que ses parents me reconnaissent. Il était tout tremblant. Les médecins leur souriaient en disant des répliques des films comme « Ça va bien se passer. Tout est sous contrôle. On va s'occuper de votre fille. » Je suis arrivée près de Céleste. Elle a demandé « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et je me suis entendue parler comme les autres et dire une phrase du genre. C'est fini, on prend les choses en main. Elle se laissait faire, elle n'avait pas l'énergie de résister. L'équipe l'a posée sur le brancard. Autrefois, je me demandais pourquoi les gestes de ces opérations d'urgence étaient si précis et si spectaculaires. À regarder, la réponse, c'est que les victimes sont en si mauvais état qu'on peut les manier comme des marionnettes. Elles ne manifestaient aucune résistance et ça ressemble presque à de la danse. En partant, ils ont dit aux parents de Céleste, « On vous donnera des nouvelles. » L'hélicoptère a quitté la terrasse au milieu du nuage noir. On voyait en bas les parents désarmés qui restaient là perchés sur leur tour entre les turbines. Je tenais la main de Céleste. Il y avait toujours sur son front la petite tache familière. Je me demandais sans cesse ce que la forme de cette tache me rappelait. Il y avait aussi d'autres cicatrices, nouvelles que je croyais me reconnaître. Céleste dormait. La pilote m'a déposé sur la tour Mensty, où j'habite. Le dog répétait en criant que je pourrais venir voir Céleste le lendemain. Il m'a donné une carte magnétique pour entrer dans l'hôpital Industrie. Quand l'hélicoptère a décollé, j'ai réalisé que je n'avais pas rendu mon casque et mon dossard fluorescent. J'ai agité les bras vers l'appareil, il s'éloignait dans la nuit en projetant ses lumières sur le cristal des immeubles. J'ai laissé retomber mes bras le long de mon corps. Je n'arrivais pas à être vraiment fière de ce que j'avais fait. Je me souviens aujourd'hui de ce que je ressentais.
une petite lassitude qui flottait dans mon corps. Ce n'était pas de la fatigue, c'était une angoisse sourde devant mon cahier avec cette immense étendue blanche autour de moi. Je croyais maintenant me rappeler cette sensation, ça devrait être ce qu'on appelle un pressentiment. L'hélicoptère s'en allait au fond de moi. Je savais peut-être que cet oiseau blanc auquel j'avais confié Céleste ne l'emmenait pas vers un nid douillet et protecteur, mais vers le plus terrible nid de vipères. Dans le précédent chapitre du roman Céleste, ma planète, de Timothée de Fombelle, on apprend que le narrateur se rend chez Céleste pour prendre des nouvelles de la jeune fille. Voyant qu'elle est très malade, il décide d'appeler sa mère qui travaille chez Industry pour que la jeune fille soit emmenée dans le meilleur hôpital de la ville.
Hé, on me secouait par l'épaule. Vous êtes encore là ? C'était la surveillante. Vous croyez que c'est l'heure des visites ? Gronda-t-elle. Sans lui laisser le temps, je me suis précipité vers la chambre 221. La porte était entrouverte. Dans le lit de Céleste, il y avait une très vieille dame, toute fripée, avec un filet sur les cheveux. Clairement, ce n'était pas Céleste. Ou bien, c'était plus grave que je ne pensais. La surveillance est entrée essoufflée. On a libéré la chambre. Votre amie ne reviendra pas. Elle est en observation prioritaire tout là-haut. Je ne peux pas la voir. Non. En sortant, je me suis excusé auprès de la dame qui était dans le lit de Céleste. La surveillante m'a dit « Ne vous excusez pas, elle est sourde, la grand-mère. » C'est le genre de phrase qui m'énerve. Elle a ajouté « Ça doit être quelqu'un, votre petite fiancée, pour être en observation prioritaire au dernier étage. » Elle me disait ça avec un sourire forcé et un clin d'œil, en penchant la tête comme si j'avais pris de l'importance en quelques minutes. Je n'aime pas ça non plus. Je suis rentré chez moi, inquiet. Comment allait Céleste ? Assis dans le canapé, j'ai pris la carte que m'avait donnée le médecin dans l'hélicoptère. Il m'avait juste dit « N'hésite pas à m'appeler ». J'ai composé le numéro sur le téléphone. « Oui, c'est moi. Comment va Céleste ?» Silence au bout du fil. « Vous m'entendez, Doc ?»« Je t'entends, mais ne t'occupe plus d'elle. Ce sera mieux pour toi. »« Vous êtes fou !» Oublie Céleste. C'est un conseil d'ami. Il a raccroché. J'ai rappelé. Où est Céleste ? Dites-moi où est-elle. Il parlait très bas. Écoute, je te jure que je ne mens pas. Je prends des risques en te répondant. Il faut que tu oublies cette fille. Encore une fois, un vrai dialogue de film. Mais quand j'ai rappelé, il n'a même pas décroché. J'ai téléphoné à l'hôpital. Hôpital Industrie, bonjour. Je voudrais joindre la personne hospitalisée sur le dossier 66-400. Un instant. La standardiste parlait comme une hôtesse de l'air. J'entendais le bruit du clavier de son ordinateur et une petite musique pour me faire attendre. J'aurais préféré entendre en silence. Monsieur ? Oui. J'ai vérifié. Il n'y a pas de dossier 66-400. J'ai avalé ma salive. Elle a quitté l'hôpital ? Non, monsieur. Elle n'y est jamais entrée. Comment ? Je vous dis que ce dossier n'a jamais existé. J'ai laissé tomber le téléphone. La voix d'hôtesse de l'air continuait à chuchoter des formules de politesse. Je suis resté allongé quelques minutes sur le canapé. Ma tête tournait un peu. J'ai alors passé le coup de téléphone de la dernière chance. Gwanda, passez-moi ma mère. Mon pauvre petit, ce n'est pas le moment. Le conseil d'administration vient de commencer. Elle te rappellera demain. Ça va mieux, mon chéri ? Gwanda, passez-moi ma mère ou je casse tout dans son appartement. Voyons, mon chéri. D'un coup de pied habile, j'ai fait voler le vase en porcelaine vers la vitrine de verre de Bohème. Ça a fait un bruit de super bingo dans une machine à sous. Je tenais le téléphone bien en l'air pour que Gwanda ne rate rien. Passez-moi ma mère. Une minute plus tard, ma mère était au bout du fil. Maman, où est Céleste ? Calme-toi. Tu perds la tête. De qui parles-tu ? Céleste. Où est-elle ? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Qui est Céleste ? La fille qu'on a amenée à l'hôpital. Quelle fille, mon garçon ? De quelle fille parles-tu ? Repose-toi. Tu es fatigué. Oublie tout ça. Cette fois, c'est le téléphone que j'ai envoyé contre la baie vitrée. Il a traversé le carreau. Je ne l'ai plus jamais revu.
2 heures plus tard, j'étais dans le petit ascenseur brinque-balance du 330. J'avais fait le même coup au gardien du parking. L'ascenseur m'a semblé plus long que jamais. Cette fois, pour me protéger de la pollution, j'avais noué mon gilet autour de ma bouche et de mon nez comme un bandit de grand chemin. En grimpant sur la terrasse, je ne sentis même pas la fumée qui m'entourait. J'ai couru vers l'abri où vivait la famille de Céleste. J'ai ouvert la trappe rouillée. Pas de lumière, personne pour répondre à mes appels. À l'intérieur, ni matelas, ni rien, aucun des petits meubles que j'avais vus l'avait, rien. Je me suis laissé glisser sur le long du mur accroupi et je... Que se passe-t-il, Céleste? Est-ce que j'avais rêvé? Se pourrait-il que mon bonheur n'ait jamais existé?
Je suis reparti. J'avais mal à la tête. Le dimanche soir, les galeries commerciales de la ville ferment enfin pendant quelques heures. Il y a moins de sacs en plastique qui se promènent. Quelqu'un jouait de la clarinette. Je me suis arrêté pour l'écouter. Il était devant un kiosque à journaux. La musique me déchirait le cœur. Ma mère avait raison. J'étais fatigué. Mes genoux tremblaient un peu. J'allais rentrer chez moi me coucher. Oublier un moment ce cauchemar. Je repensais à la maladie, à l'hélicoptère, au sourire des médecins, au sauvetage de Céleste. Tout cela ne ressemblait pas au réel. C'était trop dur et trop beau à la fois. Et Céleste? Comment croire dans ce monde qu'une Céleste existait? Je vais dormir. Le lendemain, j'aurai les idées plus claires. Je reprendrai ma vie là où je l'avais laissée. Le matin d'avant Céleste. Mais au moment d'abandonner mon clarinettiste, une image a attiré mon regard. Là, sur le kiosque. J'ai cessé de respirer. Une forme noire sur l'affiche d'un journal épinglé sur le mur. Comme une grosse tache d'encre. La forme d'un cœur un peu grignoté. J'ai fermé les yeux et je les ai rouverts. La tache noire était toujours là. Céleste. C'était exactement la forme que j'avais vue sur le front de Céleste. J'ai à nouveau cligné des yeux. La musique s'était arrêtée. Je me suis approché de l'affiche. Il y avait un sous-titre sous la tache. Amazonie, l'adieu. J'ai pris une grande inspiration. J'avais déjà vu cette image. Le dernier hectare de forêt d'Amazonie. Pas plus grand qu'un petit bois. Vu du ciel, il n'y avait plus que ce cœur rogné. On avait entouré de barbelés ce dernier coin de forêt. Le musicien a dit dans mon dos. Le pire, c'est que si c'était une personne, on trouverait le moyen de la sauver. Je me suis brusquement retourné. De qui vous parlez? Il a laissé passer un instant avant de répondre en montrant l'affiche. De la planète. Si c'était une personne, on ferait tout pour la sauver. Il y avait des phrases toutes simples qui changent des vies. J'ai serré le musicien dans mes bras et je me suis mis à courir. Je n'avais jamais couru aussi vite. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement et que la lumière a jailli, j'ai immédiatement tourné les yeux vers le sac de toile que j'avais laissé tomber là en entrant le matin. J'ai ramassé le sac et je l'ai ouvert. J'ai sorti l'atlas que je voulais offrir à Céleste. C'était mon atlas préféré. Un petit livre pas cher d'une centaine de pages. Il s'appelait « Atlas d'un monde fragile ». À l'intérieur, il y avait l'enveloppe que m'avait confiée la surveillante. C'était ça que je cherchais. Cette enveloppe noire. Je savais que j'avais oublié de la rendre. En vidant l'enveloppe sur la table, j'ai découvert des photos. Une dizaine de photos. Elles montraient la peau de Céleste. Son bras, son cou, ses jambes. Il y avait des taches un peu partout. Sur cette peau si fine, si douce, des taches sombres se dessinaient. La peau était rongée. Il y avait aussi une photo de son visage en entier. Elle était magnifique. Elle souriait au médecin qui la photographiait. J'ai trouvé le gros plan de son front. J'avais raison. C'était exactement la forme de l'Amazonie décimée. Une autre photo a attiré mon attention. Sur l'épaule de Céleste, la peau paraissait pelée et dessinait nettement les contours de... J'ai ouvert l'atlas et tourné fiévreusement ses pages. L'article ! D'un coup d'œil, j'ai comparé la photo et l'atlas. Ma main tremblait. Sur l'épaule de Céleste, on observait la fonte de la banquise de l'Arctique. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai tout compris. La désertification de l'Afrique, l'immersion des côtes indiennes, toutes les catastrophes écologiques du monde apparaissaient sur le corps de Céleste. Chaque coup porté à notre Terre était reçu par Céleste. Céleste ne souffrait de rien d'autre que de la maladie de notre planète. Elle allait en mourir à petit feu. Son sang devait être pollué comme les mers et les rivières. Et ses poumons comme le plafond de fumée de nos villes. J'ai pris ma tête dans mes mains. La lumière se faisait d'un coup dans mon esprit. Au fil des analyses et des radiographies, Les médecins du groupe Industrie avaient fait la même découverte que moi. Ils avaient compris les conséquences de cette découverte. Si quelqu'un apprenait qu'une fille de 14 ans vivait à chaque instant ce que l'on inflige à notre planète, si cette nouvelle se répandait, si le monde en était informé, plus rien ne serait comme avant. Et la première victime de cette prise de conscience serait cette immense société qui polluait le monde entier et dont le nom clignotait en haut de la tour. Industrie. Révéler la maladie de Céleste, c'était signer l'arrêt de mort de l'entreprise. Il ne leur restait plus qu'une seule issue. Faire disparaître Céleste. Si c'était une personne, m'avait dit le musicien, on trouverait le moyen de la sauver. Pour moi, ce n'était pas seulement une personne. C'était la fille que j'aimais. Alors j'allais trouver. C'est à ce moment qu'on a frappé à la fenêtre de mon appartement. Je levai les yeux vers un revenant. Brice !
Dans le précédent chapitre du roman CS Ma Planète de Timothée de Fombelle, le narrateur rentre dans l'hôpital Industrie. Il cherche à retrouver Céleste qui est à l'étage des maladies globales, mais on lui interdit de la voir et l'on apprend qu'elle est désormais au service des maladies prioritaires. Le narrateur comprend subitement que Céleste souffre de la maladie de la planète. Chaque souffrance infligée à la Terre est figurée par une tache sur son corps. Il décide alors de tout faire pour la sauver.
Lundi soir, minuit, je pensais au livreur qui devait être en train de sonner à la porte de chez moi pour me donner 8 caisses inutiles à vider dans mon frigo. Quel gâchis! Tout ça n'arrangeait pas l'état de Céleste. Depuis la veille, je regardais différemment chaque geste que faisait. J'éteignais les lumières en sortant des pièces. Je faisais attention à elle, ma planète. Minuit, Brice ne profiterait même pas de ses... sa fausse caisse. Personne n'allait ouvrir au livreur puisque je n'étais pas là. J'étais dans une nacelle en... métal accroché
la gare centrale. Cette gare accrochée au 50e étage d'une tour est une vraie cocotte minute. Elle chauffait, soufflait, sifflait dans une odeur de poudre. Les quais et les voies ferrées s'empilaient dans tous les sens. Une foule grise se faufilait dans ce dédale. J'ai dit à Céleste, ne t'inquiète pas. Mais elle ne semblait pas inquiète. Personne n'avait remarqué sa chemise de nuit blanche qui cachait mal les blessures de son corps. Personne ne regardait ce petit couple presque enfantin clopiner dans le hall de la gare centrale. Quelques minutes plus tard, nous étions installés dans un compartiment de l'Express du Nord. Il n'y avait personne avec nous. J'ai allongé Céleste sur la banquette. Assis en face d'elle, j'ai senti un grand apaisement. Le plus dur était fait. Par la fenêtre couverte de vapeur d'eau, je regardais les gens en défilant sur le quai. Le train n'était pas encore parti, mais dans quelques instants, nous serions sauvés. Alors un visage s'est écrasé brutalement sur la vitre. J'ai fait un bond vers Céleste. Deux mains immenses encadraient ce gros visage qui tentait de voir à l'intérieur de notre compartiment, malgré la buée. En me reconnaissant, l'homme a souri. C'était encore le père de Brice. Il criait quelque chose que je n'entendais pas. Le train s'est mis en marche. J'ai tenté d'ouvrir la fenêtre. Le père de Brice courait sur le quai. Il faisait des gestes. La vitre s'est enfin ouverte. Brice m'a appelé. Tu lui as demandé d'envoyer quelque chose sur l'ordinateur. Oui. Des photos, je crois. Le père de Brice était en sueur. Il slalomait entre les voyageurs. Le train allait maintenant très vite. Sa voix de plus en plus hachée. Ne pouvaient pas l'envoyer, ils. Ils ont repéré sa tentative. Ils sont venus à la maison. Ils ont emporté l'ordinateur et les photos. Et Brice, il s'est arrêté au bout du quai. Notre train s'est éloigné et les 50 kilos de cet homme en combinaison verte sont devenus comme un petit poids posé, très loin, au bord des rails. Je me suis retourné vers Céleste qui dormait sur la banquette du compartiment. d'un certain côté, l'avait de la chance. Elle ne savait pas comme moi que notre seul espoir venait de s'envoler avec la vapeur de ce train, dans le sifflement du quai. Dans ma main, le billet indiquait en lettres majuscules notre destination, Terminus Nord. Dans le chapitre précédent de Céleste, ma planète, de Timothée de Fondel, le narrateur a enlevé Céleste de l'hôpital et s'est enfui en train avec elle. On apprend que le plan du narrateur pour prévenir la population de l'existence et de la maladie de Céleste a échoué.
J'ai écrit 6 en haut de cette page, mais il ne reste que quelques feuilles à mon cahier. Je n'irai pas au bout de ce chapitre dans lequel j'aurais aimé parler d'elle qui se repose en ce moment à côté de moi. Ici, l'hiver dure toute l'année. La cabane s'appuie contre 2 arbres, la forêt est tout autour. Je ne me lasse pas de la blancheur de ce monde. J'aime la neige et le givre. J'aime le manteau blanc des forêts. Le bruit des flocons qui tombent sur le sol. J'aime le froid qui saisit ma main et l'engourdit. Je ne crains pas le combat de la survie dans un monde difficile, glacé, mais au moins, ne nous veut pas de mal. Les premiers mois passés dans ce bout du monde, j'ai surveillé Céleste comme les semis de lentilles de mon enfance. Je redoutais que la maladie ne progresse. Je guettais la surface de la peau comme si l'ennemi avait pu surgir dans cet horizon blanc. Je savais que Brice avait échoué. Mon message n'avait pas pu être envoyé au monde. Je m'attendais donc à voir se creuser encore sur le corps de Céleste l'aggravation de l'état de la planète. Un œil sur elle. J'ai bâti notre cabane, organisé le rythme de la vie. Céleste m'aidait. Elle sortait de plus en plus pour marcher dans la neige. Ses joues se coloraient de rose. Il me semblait qu'elle allait mieux. J'aurais voulu arrêter le temps, profiter de ce miracle fragile. Comment aurais-je pu croire que le temps, au contraire, travaillait pour nous ? Un matin, en la regardant de près, j'ai pensé que la tache de son front s'était réduite. Le mois suivant, je n'avais plus beaucoup de doutes, mais il me fallut près d'un an pour le croire vraiment. Je l'écris aujourd'hui en bas de cette dernière page. Lentement, Céleste est en train de guérir. Une seule question monte en moi dans ce désert humain où je vis. Et le monde, où en est le monde si Céleste va mieux? Sur une des photos à jamais perdues, j'avais juste écrit au feutre rouge comme un message pour l'humanité. Voici Céleste, ma planète. J'essaie de penser à demain. Peut-être qu'ils finiront par nous trouver. Peut-être qu'ils nous élimineront comme s'ils veulent depuis si longtemps. Peut-être aussi qu'une tempête nous recouvrira un jour. Ici, tout peut arriver. Je demande alors seulement que celui qui retrouvera ces pages les porte aux parents de Céleste. Fin du cahier blanc.
Cycle my une cabane construite entre deux arbres. Un homme s'en approche, il est armé d'un fusil à deux coups. Il a laissé sa motoneige à 100 mètres de là. Il avance prudemment entre les arbres. Il regarde la fine colonne de fumée qui s'échappe de la cheminée. L'endroit est habité. La neige a été piétinée autour de la maison. L'homme qui s'approche a armé son fusil. Sa barbe est glacée. Il sort un petit boîtier de sa poche et presse le bouton rouge. Il vient d'envoyer un signal satellite pour appeler du renfort. Il a maintenant le dos contre la cabane. Il écoute. À l'intérieur, rien d'autre qu'un craquement régulier. Impossible de savoir si c'est un pas ou le bruit du feu dans la cheminée. Il se laisse pour passer sous une fenêtre. Sans être vu, jette un coup d'œil furtif. Il vient de voir quelqu'un avec un crayon à la main, un cahier blanc fermé sur les genoux.
L'homme se tient debout devant la porte. Il arme le deuxième coup de son fusil. D'un seul élan, il se jette sur la porte et la brise d'un mouvement de foule. Il entre, tourne sur lui-même et braque son arme vers une jeune fille couchée sous des couvertures. Il hurle « Ne bougez pas !» Il semble nerveux. « Où est-il ? J'ai vu quelqu'un d'autre. » La fille le regarde. « Vous m'avez trouvé, » répond-elle. « Emmenez-moi, je suis seule. » L'homme scrute la pénombre. Il n'a pas l'air de comprendre. Alors, une ombre bondit derrière lui. Roule dans ses jambes, le fait trébucher et se saisit du fusil. En une seconde, l'homme s'est trouvé désarmé par un garçon de 16 ans qui le maintient en joue. Le cahier est tombé sur le sol. « Vous ne l'aurez pas, » dit le garçon. « Elle commence juste à aller mieux. » L'homme regarde la fille. Il n'arrive pas à détacher ses yeux de ce visage. Il se mord les lèvres. « Vous êtes là. » Des larmes mouillent ses paupières de givre. « Vous êtes... Céleste ?» Elle le contemple. Elle n'a jamais vu cet homme. « Je ne vous connais pas, » dit-elle. « Je sais, » dit l'homme. « Personne ne me connaît. Je suis un trappeur du Nord. Qui connaît mon nom ?»« Mais vous, mademoiselle, vous, le monde entier vous connaît. » Dans la cabane, le silence est devenu très intense. Le jeune garçon baisse son arme. Il écoute l'homme qui parle. « Tous connaissent votre histoire, mademoiselle. Vous avez changé le monde. » La fille semble surprise, mais son ami est très pâle. Il murmure. « Brice a réussi. Les photos. Les photos sont partout, » interrompt le trappeur. « Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. » Tout a changé. Les gens ne font plus rien comme avant. Et vous, Céleste, vous êtes guérie ? Alors, la jeune fille se lève, laisse tomber la couverture. Oui, elle se porte bien. Elle a un manteau sur les épaules, elle interroge. Et notre planète ? Un grand sourire illumine le visage du trappeur, le sourire du médecin qui va vers des parents quand leur enfant est enfin... Un grand sourire illumine le visage du trappeur. Le sourire du médecin qui va vers des parents quand leur enfant est enfin hors de danger. Le sourire de l'officier annonçant à la fiancée que le soldat s'en sortira. Le sourire éclatant des grandes nouvelles de la vie. « Et la planète ?» répète Céleste, les yeux brillants. L'homme inspire longuement pour profiter de l'instant. Sa voix est claire quand il répond. « Elle va mieux. Beaucoup mieux. »
Bonjour, vous écoutez Radio Campus Tours. Nous sommes depuis le collège André Duchesne de Lille-Bouchard avec la classe de 4e B. Dans son studio installé au CDI, et vous venez d'écouter le conte sonore « Céleste, ma planète » de Timothée de Fombelle. Tour de table avec les protagonistes.
Bonjour, je m'appelle Maëlys et j'étais la voix du chapitre 2.
Bonjour, moi c'est Alicia et j'étais la voix du chapitre 1.
Bonjour, je m'appelle Jeanne et je suis la voix du chapitre 5.
Comment vos professeurs, qu'on va nommer, vous ont présenté ce projet ?
Nos deux professeurs, qui sont Madame Adjaï et Karen, la documentaliste, nous ont mis au défi de lire « Céleste, ma planète » durant les vacances.
Est-ce que dans ce défi était précisé que ce roman serait radiophonique ?
Non, l'idée est venue à notre professeur après, mais on a globalement trouvé ça drôle. Mais on a déjà une petite expérience de la radio.
Saviez-vous qu'un roman ou une bande dessinée pouvait être lu pour la radio ?
Je sais que l'on peut l'écouter sur des plateformes de streaming.
Et oui, je savais que ça existait.
Est-ce que ça change votre lecture de savoir que c'est pour la radio ?
Il a fallu que l'on s'entraîne plus.
Oui, parce qu'on doit lire à voix haute.
Oui, parce qu'il a fallu lire avec de l'intonation et penser au bruitage.
Merci les filles, Seb et moi, pour cette interview. Les 4B, Maëlys, Alicia, Jeanne...
Au revoir !
Ce projet n'aurait pas vu le jour sans Madame Filleul, professeure de lettres classiques de notre collège, décédée cette année. C'est en effet elle qui avait fait découvrir Céleste, ma planète, à Madame Adjaï, notre professeure de français, et à Madame Boutegour, notre documentaliste. Aussi, nous lui dédions cette lecture.